Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Daniel Siboni, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob un livre passionnant sur Shakespeare. C'est un livre qui vous a, que vous avez porté en vous des années. Alors, le titre du livre est « Shakespeare, question au pluriel d'amour et de pouvoir ». Alors, dire que vous êtes philosophe, psychanalyste, mathématicien, écrivain... Mais je suis certaine que vous abritez encore toutes les formules, toutes les connaissances, hein, je pense.
Oui.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, peut-être rapidement, nous dire ce livre, Shakespeare, question d'amour et de pouvoir.
Ben oui, je peux vous le présenter. C'est un livre, ce n'est pas un essai sur Shakespeare. Et parce que les gens qui le regardent en librairie peuvent être un peu effrayés, il a plus de 600 pages. Et en réalité, je dis quelquefois, il n'a que 20 pages. Ça veut dire qu'il analyse toutes les pièces de Shakespeare, une à une, et donc vous pouvez ne lire que une pièce, c'est-à-dire... son résumé et son analyse, et ça prend à peu près 20 pages. Vous n'êtes pas tenu de commencer ce livre du début à la fin. Comme il y a des pièces en deux ou trois parties, ça veut dire qu'il y a dans ce livre 34 portes. Vous pouvez entrer par 34 portes. Je laisse l'introduction et la conclusion. Alors c'est tout à fait sympathique. Parce que vous avez envie de lire une comédie, vous n'avez pas besoin de l'avoir lu dans Shakespeare, vous n'avez pas besoin de connaître Shakespeare, vous prenez une comédie et vous lisez son résumé qui prend une page, et ensuite l'analyse qui vous promène à l'intérieur de la pièce, qui vous la fait visiter, puisque vous avez lu un petit peu... et vous pouvez témoigner que c'est en français clair.
Clair, oui. Et sympathique, c'est fluide et puis c'est humain. Donc on entre en résonance, nous, êtres humains lecteurs, avec ce que vous dites et qui nous touche au cœur et très, très simplement dit. Et c'est profondément humain, c'est lourd de vérité. Alors, dire déjà que vous êtes auteur d'une quarantaine d'ouvrages, parmi lesquels, chez Odile Jacob, il y a « De l'identité à l'existence »,« Question d'être », à la recherche de l'autre temps. Alors, avant d'entrer dans ce livre magnifique, Shakespeare, question d'amour et de pouvoir, dites-nous quelle est pour vous cette figure de Shakespeare, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, puisque vous êtes fidèle à cette œuvre, vous la connaissez, vous l'avez lue, relue, et votre travail, donc ce livre que nous présentons aujourd'hui, vous l'avez mûri en vous, maturé en vous pendant des années.
Oui.
Alors Shakespeare, c'est quoi pour vous ?
Je dis parfois que y a deux livres qui ont compté dans ma vie et qui comptent toujours, preuve qu'ils sont très importants, c'est la Bible et Shakespeare. Et dans les livres que vous avez cités chez Odile Jacob, il y a un livre qui s'appelle « Lecture biblique » qui donne mes analyses de la Bible hébraïque. Ça s'appelle « Premières approches », mais c'est déjà assez costaud, et ce sera suivi par quelques autres livres sur ce sujet. Donc, pour moi, la Bible et Shakespeare, ça a toujours été mes deux béquilles. Après, il y avait Freud, Marx, les romans russes, les romans américains, etc. Mais Shakespeare, c'est la matière humaine dans sa globalité. Son théâtre s'appelait le théâtre du globe. C'est la matière humaine attaquée par une pensée à la fois incisive et généreuse, attaquée par la jouabilité de l'humain, c'est-à-dire par le fait que les choses, les drames, les psychodrames, les impasses, les conflits, les guerres, tout ça, ça peut être vu comme des événements du jeu de l'être, du jeu de l'infini des possibles. Et Shakespeare fait des petites mises en scène chaque fois, et il lance ses personnages vers leur destin, et ça passe ou ça casse. Quand ça passe, c'est une comédie, quand ça casse, c'est tragique, mais dans tous les cas, c'est passionnant.
Alors, vous dites qu'on trouve une quantité d'allusions à la Bible, à l'Ancien Testament, dans le théâtre de Shakespeare. Le théâtre de Shakespeare est imbibé de références bibliques. Alors expliquez-nous, quelle est la miscibilité entre la Bible et Shakespeare? Quels sont ces ponts?
Moi j'ai des preuves. Vous savez, quand vous avez lu son œuvre et relu d'un bout à l'autre, il y a des impressions qui émergent, qui ne sont pas forcément cataloguées. Par exemple, si vous appelez dans Google Shakespeare et la Bible, il ne vous donnera rien. Si vous cherchez dans Shakespeare des occurrences du mot Bible, vous en trouverez deux ou trois qui ne sont pas signifiantes. Donc, son rapport avec la Bible, il est plus intime, il est à la fois thématique, linguistique, spirituel. Et vous savez, quand il cite des choses de la Bible, c'est jamais des citations comme ça, péremptoires ou dogmatiques. Je vous donne un exemple. Dans Hamlet, il dit, le personnage Hamlet dit à Polonius, le père d'Ophélie, et vieux Jephté, pourquoi? Ça veut dire quoi? Vous pouvez demander même à un lecteur de la Bible, de faire l'expérience, ça veut dire quoi de traiter quelqu'un, un père, le père d'une fille, de vieux Jephté? Et ça veut dire que Shakespeare cite le passage du livre des juges, et dans lequel Jephté, avant de partir en guerre contre les Ammonites, fait une prière à Dieu et lui dit, si tu me donnes la victoire, je t'offrirai, je te présenterai en offrande, en holocauste. Mmh. En holocauste, oh là, ça se dit en hébreu. Mmh. En holocauste, la première personne qui viendra m'accueillir. C'est un étrange vœu, parce qu'il transgresse les lois bibliques minimales qui sont l'interdit du sacrifice humain. Mais ça ne le gêne pas. Et donc Dieu lui donne la victoire. Et quand il rentre, il se doutait bien que la personne qui irait en chantant à sa rencontre, ce serait sa fille chérie. Donc il la sacrifie. Et pour tenir parole, car il n'est pas question qu'il ne tienne pas parole, qu'il revienne sur sa parole, fût-ce au prix d'une vie humaine. Et donc, le personnage Hamlet veut signifier à Polonius que, tout comme Jephté, il est prêt à sacrifier sa fille pour qu'elle n'appartienne pas à un homme autre que lui, autre que le père. Ben voilà une citation qui vous donne le ton des petites accointances de Shakespeare avec le texte biblique, c'est-à-dire c'est une lecture interprétante. C'est une lecture authentique, c'est pas une lecture qui va prendre la Bible comme autorité. Mm-hmm. Par exemple, dans Jules César, quand les révoltés se dressent pour aller tuer César, il s'échauffe et ils disent oui, il n'a pas encore fait des abus, mais il va en faire. C'est un tyran en herbe. Donc, tuons sa tyrannie dans l'œuf. Et donc, ils y vont, et pour se donner du courage, et ils se disent l'un dit aux autres, et après tout, qu'est-ce qu'il a de plus que nous ? Mmh. Et là, c'est carrément un calque, et en tout cas un écho de la révolte de Corée dans la Torah contre Moïse. C'est qu'est-ce qu'il a de plus que nous ? Nous aussi, on fait partie du peuple saint. Et les conjurés, il y a l'un d'eux qui dit à Brutus, écris ton nom et à côté du sien, de César, tu verras que le tien est aussi beau. Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui le distingue. La bêtise de cette question a été évidente dans les deux cas, c'est que ce qui distingue Moïse de Corée, c'est que Moïse est béni et pas Corée. Mmh. Et que ce qui distingue Brutus de César, c'est que César, il a la splendeur, la baraka, l'amour du peuple, et que Brutus est un comploteur sournois qui veut assouvir sa prétendue soif de vérité et retourner chez lui en laissant le peuple désemparé.
Alors vous dites même que le théâtre de Shakespeare, l'œuvre de Shakespeare, nous éclaire sur des enjeux essentiels de la Bible. Et quels sont ces enjeux bibliques qui sont essentiels ?
Ouais, demandez autour de vous. Mm-hmm. Quels sont les enjeux ? Pour moi, la Bible, d'un bout à l'autre, se bat férocement. Elle fait tout ce qu'elle peut pour lutter contre l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est pas seulement de faire des idoles. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose par-dessus tout, à l'exclusion de toute ouverture sur le divin, sur l'infini, sur la spiritualité. Vous pouvez être idolâtre simplement en ayant comme but dans la vie que de ramasser un magot le plus important possible. On dira que vous êtes un idolâtre du veau d'or. Mmh. D'accord ? En termes modernes. Et donc, vous pouvez aussi idolâtrer, je ne sais pas, tel idéologue, vous pouvez idolâtrer. Donc l'idolâtrie, c'est pas seulement fabriquer des idoles, c'est placer au-dessus de tout quelque chose qui est une production humaine. Et la Bible se bat contre ça de toutes ses forces, sans succès d'ailleurs, puisque jusqu'au dernier prophète, la Bible dénonce l'idolâtrie. Les prophètes disent dénonce l'idolâtrie. Et donc, dans Shakespeare, ça prend la forme d'une dénonciation de tout ce qui rappellerait le culte des déesses mères, la dépendance à la mère possessive, la dépendance à la mère patrie, Et vous savez, dans Songe d'une nuit d'été, il y a le personnage Oberon qui dit à sa femme, c'est des êtres un peu divins, et des êtres du monde un peu surréel, il lui dit, je vois que tu as un petit enfant, donne-le-moi et on se mettra ensemble. Et elle lui dit, non. Je le garde pour moi. je l'ai eu avec mon ami chéri, mais qui était mortel, etc. On croirait un discours du 21e siècle. J'ai eu cet enfant par insémination, elle est dit par le souffle du Saint-Esprit, elle dit le souffle divin. J'ai eu cet enfant. Cet enfant, il nous appartient à nous deux, les femmes, je ne veux pas te le donner. Et donc, il se fâche, et Shakespeare, il jubile là-dedans, il veut faire sentir. Il fait dire à un homme, et partageons cet enfant, faisons de cet enfant notre enfant, et on sera heureux. Et elle dit non, c'est l'enfant de moi et de mon ami. C'est-à-dire que Shakespeare est sensible à la dimension symbolique, si vous voulez. Celle qui fait qu'un père propose à l'enfant un entre-deux parental, et pas simplement une tyrannie paternelle, patriarcale, phallique, et encore moins une prédominance maternelle, archaïque, qui renverrait aux déesses mères, créatrices de vie, etc. Tout thème biblique majeur. Et le deuxième enjeu de la Bible, qui éclaire très bien Shakespeare, parce que c'est le sien, c'est la lutte violente et sans merci contre l'injustice. Et chez Shakespeare, ça prend la forme d'une lutte contre l'usurpation. Il crée des situations qui sont insoutenables et d'injustice parce que la place légitime a été usurpée. Et Shakespeare, tout comme la Bible, a horreur de l'usurpation, c'est-à-dire de la capture d'une place de pouvoir pour faire passer sa propre loi, sa loi narcissique, plutôt que la loi symbolique.
Alors, vous posez une question, Daniel Siboni. Vous êtes certainement le réceptacle, le centre de gravité de beaucoup de sciences, de connaissances, d'humanité. Est-ce que cela, vous l'avez pratiqué dans la vie? Et ensuite, une deuxième question corollaire par rapport à la langue. Shakespeare, c'est en anglais, la Torah, c'est en hébreu. Nous avons parlé de la langue de votre livre Shakespeare, question de pouvoir et de question d'amour et de pouvoir. Est-ce que vous avez dans votre écriture vous avez été aidé par la langue anglaise en ce qui concerne Shakespeare et la langue de l'hébreu pour la Torah?
Évidemment que je plonge dans Shakespeare à la fois en français et en anglais. Je plonge dans la Torah à la fois en français et en hébreu. Mais la langue, c'est pas seulement la langue manifeste. La langue, c'est la pensée. Mm-hmm. La langue, c'est la pensée. Et donc, c'est à vous de dire, plutôt, puisque vous avez lu, j'imagine, des passages de mon livre.
Oui, bien sûr.
Vous avez vu que la langue que j'utilise est à la fois la langue de l'objet dont je parle, c'est-à-dire des questions d'amour et de pouvoir. Soit dit en passant, il n'y en a pas d'autres. Si vous trouvez d'autres questions humaines qui ne soient pas d'amour et de pouvoir, vous me le direz avant la fin de l'émission. Et donc, c'est une langue qui est coextensive à ces problèmes-là. Et la langue de Shakespeare aussi, et la langue biblique, et ce sont des langues qui adhèrent à ce qu'elles disent parce que c'est en elles qu'émerge la vérité de ce qu'elles disent.
Est-ce que vous avez vu, pardon, une différence dans cette, vous avez parlé de miscibilité élective entre la pensée et le mot qui exprime cette pensée. Est-ce que vous avez vu un talent différent dans la langue de l'hébreu par rapport à son, aux idées qu'elle dit, et aussi donc en anglais par rapport à ce que Shakespeare dit. Est-ce qu'il y a plus d'extensivité, vous avez dit une plasticité de la langue qui adhère à l'idée. Est-ce que vous avez admiré, puisque vous êtes finalement un artiste de la langue, hein, vous savourez la langue, est-ce que vous avez trouvé un talent particulier dans l'anglais de Shakespeare qui sert mieux la pensée, ou bien ça a été battu par Shakespeare. Shakespeare.
Shakespeare, ce qu'il raconte, ça ne pouvait être dit que dans la langue de Shakespeare, vous savez. Et j'imagine mal les grandes tirades, je ne sais pas, de Jules César ou de Roméo et Juliette, et en alexandrin ou dans les vers de Racine. Si vous voulez, il y a une dramaturgie dans Shakespeare, mais là, ça nous mènera trop loin, mais je vous dis quand même quelques mots là-dessus. Shakespeare, c'est la passion du jeu. Donc
le jeu, J-E-U ou bien J-E, le narcissisme.
Mais non, c'est le jeu, le J-E-U, J-E-U, sachant que le jeu du sujet, ça n'est jamais que l'ensemble des jeux, J-E-U-X, auxquels il a pu se prêter. Si c'est ma définition à moi du jeu comme sujet, subject, comme siège de la subjectivité, comme fonction subjective, un jeu n'existe que en s'impliquant dans des jeux.
Oui.
Des jeux, c'est-à-dire des relations, des interconnexions avec d'autres, où apparaissent des éléments gagnants, perdants, des épreuves, etc. Une pièce de Shakespeare, c'est vraiment un play, un jeu. Et une pièce, ça se dit play. C'est donc un jeu qui implique un tas de personnages. Mais ce qu'il y a de formidable chez lui, c'est que il crève la représentation. Ça veut dire qu'il ne fait pas que représenter, montrer des gens qui évolue comme ça sur la scène, il n'est pas que dans la représentation, il est dans la présence, dans la mise en jeu de la présence. Ça veut dire que c'est un théâtre d'action. C'est constamment de l'action et de l'acte. Et donc, vous voyez émerger dans le jeu des personnages, vous voyez émerger leur vérité, leurs symptômes, leurs impasses, mais c'est en acte. C'est plus une présence que vous partagez avec votre présence que une représentation que vous regardez du dehors. D'ailleurs, il y a une très belle pièce qui est Henri V, où là on a vraiment un personnage que Shakespeare admire. Donc il l'a bien décrit, c'est un personnage qui a un sens du symbolique assez profond. Et le cœur, peut-être même la seule pièce où il y a un cœur, une ou deux je crois. Et le cœur dit au spectateur, maintenant, faites un effort d'imagination. Vous allez penser que vous êtes en France, dans tel champ de bataille, etc. C'est-à-dire qu'il requiert l'imagination du spectateur et pas seulement son écoute pour prendre part au jeu. Il associe les spectateurs au jeu.
Alors, vous posez une question par rapport au jeu, J-E-U. Est-ce que à travers l'œuvre de Shakespeare que vous avez lu, visité, commenté, réfléchi, pensé, est-ce qu'il y a des possibilités de jeu, J-E-U, entre soi et soi-même dans le théâtre de Shakespeare ?
Constamment. Constamment. Vous avez des scènes de déchirement du personnage et d'un bout à l'autre, d'ailleurs. Comédie ou tragédie. Imaginez Hamlet déjà déchiré par son symptôme qui est son incapacité à agir et son incapacité même à soutenir les paroles qu'il dit. Puisque le drame de ce personnage, c'est pas simplement qu'il est et il n'arrive pas à tuer le roi qui a tué son père, c'est que il dit une chose puis il dit son contraire. Et le fameux monologue, tenez, le to be or not to be, qu'on a tellement cité qu'on ne le comprend plus. Mm-hmm. C'est un pur déchirement d'un personnage totalement inhibé entre son envie de vivre et son envie de mourir, et il ne sait pas quoi décider, puisqu'il dit oui, ça serait bien d'en finir avec tous ces problèmes et d'un seul coup en mourant. Mais peut-être que quand on est mort, on rêve, mm-hmm, et qu'on ne peut pas se réveiller.
Perhaps to dream.
Et voilà. Et donc, peut-être que alors on sera condamné à une souffrance éternelle. C'est des conneries qu'il raconte. Parce que si on est mort, on ne sentira pas les souffrances en question. Mais peu importe, lui, c'est comme ça qu'il imagine les choses. Et donc, il est déchiré. Mais un autre est beaucoup plus déchiré encore. Le roi Lear, qui a cru bien faire en donnant son royaume à ses trois filles, ou plutôt à ses deux, parce que l'une n'a pas voulu faire l'hypocrite en lui déclarant un amour total. Et il est complètement déchiré, il en devient fou. Vous avez une pièce où un sujet est dans un tel splitting avec lui-même.
Par rapport à Shakespeare, comment est-ce qu'un être humain peut avoir toute cette intuition, cette connaissance, cette science de l'humanité, de l'être humain? Et on a fait la comparaison entre l'œuvre de Shakespeare et la Torah. Et Shakespeare, un être humain qui a cette connaissance, cette langue éblouissante, la poésie de Shakespeare, chaque phrase, ce sont des braises incandescentes, des mots qui se rencontrent, qui fusionnent, c'est éblouissant. En une phrase, sur une phrase, on peut rester longtemps à savourer, à réfléchir, à partir dans nos propres tangentes. Alors, Shakespeare est toute cette force parallèle avec la Torah. Et tout ce côté divin et insondable.
Oui, vous savez, je n'ai pas dit, j'ai pas mis en parallèle.
Non, mais nous, on peut glisser vers ces...
C'était mes béquilles, j'ai dit que c'était mes béquilles, mes soutiens, mais c'est d'un ordre différent. D'abord, je ne parle pas de la Torah, je parle de la Bible, c'est-à-dire de tout l'Ancien Testament, qui s'est écrit sur 8 siècles, voilà, au moins. Si ce n'est pas plus, Shakespeare, ça s'est écrit sur une vie. Et Shakespeare, il a un souci clinique qui, dans la Torah, existe, mais qui n'est pas prédominant. La Torah, elle a envie de raconter l'histoire d'une famille, l'émergence d'un peuple, les splendeurs et misères de ce peuple. C'est démêlé avec la promesse divine, et etc. C'est pas du tout le même objet. Si je les ai comparés, c'est parce que tous les deux ont un souci de faire émerger et d'inscrire l'acte symbolique, la dimension symbolique qui dépasse la raison et qui a pour fonction... Qui dépasse la raison, mais qui inclut la raison, et qui a pour fonction, je dirais, de démortifier l'être humain. La dimension symbolique, c'est comme la bénédiction dans la Bible, c'est-à-dire une parole qui vous extrait de la mortification, qui vous redonne une chance de vie. Et ça, c'est avec ce souci commun de la Bible et de Shakespeare, vous avez deux œuvres éblouissantes qui s'éclairent l'une par l'autre et qui, en tout cas, moi, m'ont soutenu l'une et l'autre et que j'ai toujours plaisir à expliquer, à transmettre. Et j'espère que votre public osera faire le pas d'avoir ce livre compagnon, car c'est un livre qui accompagne pendant toute une vie. On lit une pièce par semaine, par mois, par jour, comme on veut, et ça ouvre, vous en avez témoigné, des horizons très vastes.
Très vaste. Je vous remercie infiniment, cher Daniel Siboni, pour ce livre extraordinaire, mais vraiment qui est un classique, comme vous le dites, on le garde, on le relit, parce qu'on ne peut pas avaler tout ça. Je m'étonnais par rapport à Shakespeare en disant comment est-ce qu'un être humain peut avoir tant de puissance pour comprendre, pour rendre, pour exprimer l'âme humaine dans tous ses tourments, dans tout son drame, dans sa tragédie, sa splendeur. Un être humain, Shakespeare. Je vous remercie infiniment. Oui. Shakespeare, question d'amour et de pouvoir, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. À très bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Thank you. Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.